Réplique, le nouveau visage de l'Europe centrale avec Jacques Rupnik et Alexander Smollard. Quand j'étais jeune, l'Europe, avec ses montants compensatoires et ses marathons de Bruxelles, me laissait froid. Je ne la regardais pas comme une maison, mais comme un appareil. C'est plus tard, en lisant Kundera, Havel, Miloš, Brandis ou Kolakowski, que je me suis senti profondément européen. Comme beaucoup de gens de ma génération, j'ai une dette envers les intellectuels d'Europe centrale. Cette autre Europe a depuis lors rejoint la nôtre. Et voici qu'elle semble s'en séparer à nouveau. Ses dirigeants font bande à part. Ceux-là même qui viennent de la dissidence semblent choisir aujourd'hui la voie d'un nationalisme radical. Perplexe, déconcerté, inquiet, j'ai voulu en savoir davantage. J'ai donc invité nos deux plus grands connaisseurs de ces pays, Jacques Rupnik et Alexander Smollard. Et voici votre ordre de mission, messieurs. Éclairez notre lanterne. Que se passe-t-il en République tchèque, en Slovaquie, en Hongrie et en Pologne? Ces nations filent-elles un mauvais coton? Jacques Rupnik.
L'Europe centrale que vous évoquiez à l'instant est de retour après une éclipse consacrée à l'intégration européenne. L'Europe centrale voulait s'intégrer dans l'Europe occidentale, c'est chose faite. Et maintenant que c'est chose faite, elle revient, mais alors sous un visage qu'on n'avait pas attendu et qui est peut-être moins sympathique que celui des écrivains que vous évoquiez des années 80 et qui est plutôt celui d'une régression de la démocratie qu'on peut voir dans la Hongrie d'Orban, dans la Pologne de Kaczynski, mais aussi en Slovaquie. Il suffit de voir les résultats des dernières élections, il y a un mois, où on a une très forte poussée du nationalisme et même de l'extrême droite fascisante. Donc,
c'était pas l'extrême droite fascisante qui gouverne aujourd'hui
non,
en Slovaquie.
Non. Il y a une coalition qui s'est constituée en Slovaquie autour de Monsieur Fico, qui est un national populiste de gauche, je dirais dire. C'est un Orban de gauche. C'est une façon, peut-être un raccourci pour dire cela. On pourrait prolonger en mentionnant la Croatie, qui a en fait un gouvernement là aussi de droite conservatrice nationaliste, avec certains personnages qui figurent dans ce gouvernement, comme le ministre de la Culture, franchement préoccupant par sa réhabilitation du régime moustachi de la Deuxième Guerre mondiale. Bref, nous avons là un mélange de deux choses, une régression de la démocratie, c'est-à-dire une remise en cause de ce qui est convenu en Europe d'appeler la démocratie libérale, c'est-à-dire la séparation des pouvoirs, l'indépendance des médias, par exemple, et nous avons vu qu'en Hongrie d'abord, plus récemment en Pologne, mais on voit que des tentatives similaires se profilent ailleurs, en Croatie d'ailleurs, c'est tout à fait récent. Donc là, nous avons une remise en question du principe de la démocratie libérale, de l'état de droit. Hein, quand on s'attaque à la Cour constitutionnelle, comme l'a fait Orban, en Hongrie, puis plus récemment Kaczynski en Pologne, voilà, nous avons une remise en cause de ce qui est censé être le garant du système constitutionnel en vigueur. Et ça, c'est un aspect, la régression de la démocratie. Et il y a l'autre volet, qui est le retour d'idéologies nationalistes associées à des partis conservateurs de droite, alliés parfois, mais pas toujours, à l'extrême droite. L'extrême droite, en fait, elle est bien là. En Hongrie, avec Jobbik, elle est bien là. En Slovaquie aussi. Elle fait d'ailleurs son entrée au gouvernement. Le Parti national slovaque, qui est l'équivalent de Le Pen, entre au gouvernement avec M. Fico. Donc vous avez un nationaliste dit de gauche qui fait rentrer au gouvernement des nationalistes de droite. Donc cette autre dimension, le retour du nationalisme ou d'une crispation identitaire, ça c'est un autre volet. Les deux peuvent se rejoindre, mais je crois qu'il est important de les distinguer.
Alexander Smolar, est-ce que vous êtes d'accord avec ce premier panorama ?
Oui, je suis tout à fait d'accord, mais il faut voir aussi les différences entre les différents pays. Même entre Hongrie et la Pologne, il y a une différence qu'il faut voir. En Hongrie, le régime d'Orban, qui est nationaliste, anti-européenne dans une large mesure, avec les éléments autoritaires, ce qu'on appelle en anglais « illiberal democracy », la démocratie non libérale. Et ça veut dire la démocratie qui veut limiter le processus démocratique à une pure dimension politique, tout en éliminant toutes les contraintes imposées à un processus politique. Or, là-bas, Orban est venu après un désastre du gouvernement du centre et de gauche. Donc, jusqu'à aujourd'hui, aussi bien le centre que la gauche sont totalement compromises. La Pologne, c'est un cas tout à fait différent. Kaczynski a gagné, entre autres, d'abord, c'est la logique démocratique. Les gens en avaient assez, 8 ans de libéraux au pouvoir. Aussi, la campagne désastreuse présidentielle, le printemps dernier du candidat, qui était considéré par tout le monde comme le futur président évident de la Pologne. Donc il y avait un choc, et aujourd'hui il y en a aussi l'opposition qui est très forte. Il y a 2 partis libéraux en Pologne. La gauche a été laminée, totalement éliminée, mais il y a 2 partis libéraux qui sont forts. Il y a un mouvement social puissant. C'est le comité de défense.
C'est la différence avec la Hongrie. Vous
voilà,
direz.
C'est
la
différence.
Il y a quand même 2 partis libéraux qui sont très forts.
Et le mouvement de masse, des dizaines de milliers de gens en défense de
l'état de droit, justement.
En défense de la démocratie.
Ouais.
Et aussi, dans le cas de la Pologne, la pression de l'extérieur, de l'Occident, est beaucoup plus forte que c'était le cas avec Orban, qui a eu une légitimité démocratique. Il a eu une majorité constitutionnelle absolue. Il pouvait changer la constitution, ce qui n'est pas le cas de la Pologne. Et une autre relativisation, 2 phrases seulement. Il ne faut pas oublier que ça se passe dans le contexte où à l'Occident aussi, on voit la montée de forces populistes, de droits, de forces nationalistes et qui servent bien souvent comme modèle pour ce pays-là.
Oui.
Donc c'est un phénomène aussi européen. Mais bien sûr, le cas de la Hongrie et de la Pologne sont très spécifiques. Ils gouvernent le pays.
Mais oui, ce qui n'est pas vrai des
ce qui n'est pas
des
vrai de Marine Le Pen ou de soi-disant les démocrates en Suède, etc. Mais ce sont des forces qui sont très présentes dans l'Europe occidentale aussi.
Oui, mais alors justement, interrogeons-nous sur les raisons de cette irruption du nationalisme dans les pays d'Europe centrale dans les années 80. Ceux qui nous ont rappelé l'existence de l'Europe centrale, je les ai cités, eh bien, ils nous parlaient de la civilisation européenne. Ils nous disaient d'ailleurs que l'Europe centrale, c'est ce qu'exprimait notamment Kundera dans un article célèbre, revendiquait son identité européenne, son occidentalité. Alors, pourquoi cette voie-là semble-t-elle oubliée aujourd'hui ? Pourquoi ce regain de nationalisme ? Est-ce parce que la démocratie n'a jamais eu vraiment le temps de s'installer dans ces pays ? D'où vient l'inquiétude qui, en Europe centrale, imprime ce virage ?
Je crois qu'il y a 2 choses. Il y a d'une part le mouvement de balancier, Alexandre Smolar vient d'y faire allusion. Les libéraux ont gouverné pendant longtemps. Et il y a un retour du balancier, mais le retour du balancier, il n'est pas vers la gauche, puisqu'il n'y a pas de gauche. La gauche s'est effondrée et en Pologne et en Hongrie. Et d'ailleurs, il faut dire, en Hongrie, le libéralisme est à gauche. Donc, voilà, ça complique encore plus. En France, le mot libéralisme, immédiatement, est classé à droite. D'ailleurs, on parle même pas de libéralisme politique. On ne connaît que le libéralisme économique, le marché, la mondialisation, etc. Là, on parle de libéralisme politique, et c'est ce libéralisme politique qui est menacé aujourd'hui en Pologne et en Hongrie. Orban le dit d'ailleurs de façon ouverte. Je préconise une démocratie non libérale. Il utilise le mot anglais « illiberal democracy ». Et ça, c'était le terme que Farid Zakaria, dans un livre des années 90, avait choisi. Il dit « oui, c'est des régimes où il y a des élections libres ». Mais c'est pas pour autant qu'il y a la démocratie, parce qu'il n'y a pas la séparation des pouvoirs, il n'y a pas les médias indépendants, etc., etc. Donc c'est la volonté populaire, mais ce n'est pas la séparation des pouvoirs. Si vous voulez, c'est la volonté générale de Rousseau, mais pas la séparation des pouvoirs selon Montesquieu.
Et donc, pourquoi la Hongrie, restons-en à ce cas, a-t-elle pris un tel tournant? Est-ce que ça tient à une tradition politique? Après tout, István Bibó, dans son livre « Misère des petits États d'Europe centrale », montrait justement la difficulté d'incarner des valeurs comme celle de la liberté individuelle dans des pays qui raisonnaient en termes plutôt d'indépendance collective, qui s'arc-boutaient sur leurs griefs, et où, précisément, le libéralisme politique n'a jamais vraiment pu fleurir. Alors, est-ce que c'est cette tradition qui continue ou qui ressurgit aujourd'hui?
Alors, effectivement, il y a à la fois l'épuisement du cycle libéral de l'après-89. On peut dire que ça fait un moment. On peut dire pour le 20e anniversaire, le cycle était épuisé. 20e anniversaire de 89. Et 89, c'était l'aspiration à la démocratie, démantèlement de l'économie socialiste pour l'économie de marché. Et l'Europe. En gros, on a la démocratie, mais elle est en crise. On voulait le marché, mais il est en crise avec la mondialisation. Et on voulait être en Europe, et l'Europe elle-même est en crise. Donc, le programme de 89 a été, en quelque sorte, réalisé, mais il est en crise. Donc, le cycle libéral est épuisé. Deuxièmement, quand on s'interroge sur l'alternance par rapport aux libéraux, l'alternance ne vient pas de gauche, elle vient du côté conservateur. Et c'est là où la culture politique traditionnelle joue. Il y a des fractures profondes dans la culture politique hongroise, par exemple. La grande fracture, c'est, on appelait ça entre urbanistes et populistes. Les uns urbanistes, donc, qui pouvaient être soit sociodémocrates ou libéraux, tournés vers l'Ouest, disons, la société moderne, ouverte, occidentale, et les populistes qui considéraient que la paysannerie hongroise était le dépositaire ultime de l'identité nationale, l'Église, bien entendu, jouant son rôle. Et vous avez des variantes de ce discours, et en Slovaquie, et en Pologne. Le clivage en Pologne, ce serait, Alexandre me contredira peut-être, c'était entre Dmowski et Pilsudski. Donc il y a une idée de la nation plus restreinte et plus dans une définition ethnique, par opposition à celle de Pilsudski, qui était la grande Pologne multinationale. Donc, on a des fractures anciennes qui remontent à la surface. Et alors, pour en venir aux écrivains que vous mentionniez à propos de l'Europe centrale, oui, Kundera, Miloš et quelques autres, Gyuri Konrád, parlaient de la redécouverte de l'Europe centrale comme culture et comme civilisation et comme appartenance à l'Occident pour se démarquer du totalitarisme soviétique. Voilà, donc c'était
une autre civilisation, disait
Kundera. Une autre civilisation. Donc il y avait ce discours sur l'appartenance d'une civilisation. Mais en parallèle à ce discours dans les années 80, donc identité culturelle contre le totalitarisme, il y avait la dissidence, il y avait les droits de l'homme, il y avait la société civile. Donc il y avait le moment Kundera, si vous voulez, accompagné du moment Havel.
Oui.
Les deux étaient en parallèle et c'est ce qui a triomphé en 89. Le triomphe de 89, c'est la conjonction de ces deux choses. Or, que voyons-nous aujourd'hui? Nous voyons un discours sur la défense de l'identité nationale, sur la défense de la civilisation européenne face aux invasions de migrants, etc. Mais cette fois-ci, elle n'est plus accompagnée du volet démocratie, droits de l'homme, société civile, le moment Havel, en quelque sorte, est éclipsé. Et il ne reste que l'autre aspect, une version déformée du discours sur la défense de la civilisation européenne. Donc là, nous avons quelque chose de très intéressant. J'ajouterais que le paradoxe, c'est que ce discours sur la défense de l'identité menacée, ça, c'est un thème que l'on retrouve effectivement chez Bibeau, qui, dans son livre sur la misère des petits États d'Europe de l'Est, dit à un moment donné « La démocratie est menacée lorsque la cause de la nation se sépare de la cause de la liberté. »
Voilà, c'est ça.
Or, Orban suggère aujourd'hui que la cause de la nation est menacée et qu'elle se sépare de la cause de la liberté que, qu'incarne l'Europe avec la liberté de mouvement, le sans frontières, etc., etc. Et donc, on est un peu dans la configuration
décrite
par Bibeau, et j'ajouterais par Bibeau et aussi par Jassy, un grand penseur hongrois de la même époque, surtout dans l'entre-deux-guerres, mais qui, dans les années 20, Oscar Jassy a écrit un essai sur la régression, ce qu'il appelait le Rückschlag. Il a emprunté ce terme à la psychanalyse. Il dit, ça, c'est des moments où des structures anciennes remontent à la surface.
Voilà.
Et il applique ça au régime Horthy des années 20. Il dit, à cause de l'anti-bolchevisme et de l'irrédentisme, du traumatisme de Trianon, la Hongrie qui a perdu ses territoires, la Hongrie est traumatisée et des choses que l'on croyait écartées en 1918 sont revenues. Eh bien, on pourrait prendre Bibeau et Oscar Jassy pour interpréter
la
situation hongroise, la cause de la liberté et de la nation qui se sépare, et aussi cette régression, le Rückschlag dont parle Jassy, avec, je crois, des continuités. Faut pas, je dis pas que nous sommes dans le parallèle avec la Hongrie de Horthy, mais je crois que ce sont des auteurs qu'on peut revisiter pour comprendre la crise actuelle.
Alexandre Smolarz, est-ce que vous diriez que la Pologne aujourd'hui est en proie à une régression du même type? Y a-t-il une forme polonaise de la régression, puisque vous disiez la différence entre la Hongrie et la Pologne? Alors je vais donner un exemple de ce qui est un exemple préoccupant, mais peut-être le jugez-vous tout à fait marginal. Le gouvernement actuel polonais voudrait, semble-t-il, retirer l'ordre du mérite à un historien d'origine polonaise, Jan Gross, car ce gouvernement estime que les écrits de Gross sont antipatriotiques. Je rappelle que Jan Gross a publié, il y a quelques années, un livre très important, Les Voisins, sur le massacre de Jedwabne, un massacre commis quelques jours après l'entrée de l'armée d'occupation allemande. Mais les habitants de Jedwabne ont entrepris de tuer les juifs de la ville. Simplement, c'est un pogrom polonais. Ce ne sont pas les ennemis, ce sont les voisins qui l'ont exécuté. Le livre a eu un immense écho en Pologne, a suscité une très longue discussion. Et aujourd'hui, voici Jan Gross qualifié d'anti-patriote. Alors, est-ce qu'il faut prendre très au sérieux cette menace? Est-ce qu'elle témoigne de quelque chose comme une régression? Alexander Smolarz.
Au niveau du gouvernement, certainement, il y a une régression. On a les populistes nationalistes très liés à l'Église, aux forces les plus rétrogrades dans l'Église catholique en Pologne. Mais je voudrais revenir pour dire quelques phrases sur la question plus générale, justement, ce rapport entre cette phase libérale et ensuite antilibérale. Or, il y a un an, un livre très intéressant est paru aux États-Unis par quelqu'un que vous connaissez bien, Michael Walzer, philosophe de gauche d'ailleurs, et américain, The Paradox of Liberation, The Secular Revolutions and Religious Contra-Revolutions. Le paradoxe de libération. Or, la thèse qu'il pose est très intéressante du point de vue de notre région. Il analyse la situation dans trois pays, l'Inde, l'Algérie et Israël. Et il dit que le changement, les grands changements sont faits par les gens tournés vers l'Occident, les libéraux, la gauche, mais ensuite, au bout, à peu près de 25 ans, il y a un retour de la religion, basé entre autres sur les problèmes d'identité. C'est la dimension sociale qui joue le rôle aussi. Or, ça, il faut le souligner. Les changements, par exemple, en Pologne, ils ont une dimension sociale déprimante, mais très claire. Ce sont le couche populaire qui appuie le gouvernement d'aujourd'hui, oui, qui a adopté non seulement une rhétorique nationaliste, disons, pas raciste, pas xénophobe, mais nationalisme dur, très pro-catholique, mais aussi un discours très social, avec la mination de la gauche, pratiquement, ils ont récupéré les discours de la gauche. Et d'autre part, ceux qui sont des côtés de l'Europe, des valeurs européennes, c'est la classe moyenne. Non seulement, même dans les catégories de l'âge, ce ne sont pas les jeunes. Les jeunes sont passés à droite, d'ailleurs pas seulement dans le pays de l'Est. Les jeunes sont passés à droite. Donc ça c'est un processus très complexe. Il faut voir aussi cette dimension d'identité après un grand succès. Et les Polonais, plus de 80% des Polonais reconnaissent que la transformation, c'était un grand succès. Oui. Mais aujourd'hui, on pose la question, mais d'où on vient, où on va, le problème d'identité? Et je pense que le problème d'identité joue ici le rôle énorme. Maintenant, pour revenir à la question de Gross.
Oui, mais ça a un rapport avec la question d'identité, parce que quand ressurgit l'affirmation identitaire, c'est la capacité de se remettre soi-même en question qui est en quelque sorte bloquée ou inhibée.
Absolument. Donc, entre autres, un élément qui est très important, c'est la fierté nationale. Donc, voilà. Aussi, les gens comme Gross, mais pas seulement le Gross, un journal très populaire en Pologne, comme Gazeta Wyborcza, est violemment attaqué. Les gens, la moitié des journalistes dans les radios, ont été virés, etc. Et bien sûr, la fierté, on va pas critiquer éternellement le passé, même si Kaczynski l'a dit ouvertement. Il y avait des criminels qui, pendant la guerre, ont fait des choses terribles, les Polonais. Mais c'est pas ça qui compte. À ce qui concerne Gross, il a écrit un article qui a choqué profondément la région entière, excessif, où il a dit, en expliquant le refus, on va revenir, des migrants dans la région, il a dit que cela est directement lié à la question juive qui n'était jamais vraiment jamais discuté. Or, c'est malheureusement grotesque, parce que contre les migrants est aussi la Bulgarie, qui est un des pays qui a
et le Danemark.
Les deux pays les plus exemplaires pendant
la Deuxième Guerre mondiale.
Donc la question juive, absolument, est toujours là, très présente dans les débats polonais, c'est très important. Mais lié l'un à l'autre, ça provoquait un scandale. Et je pense que le gouvernement, d'ailleurs, est très gêné maintenant par les cas de Gross, parce qu'ils savent très bien qu'ils vont payer le prix s'ils vraiment ils privent Gross de cette purement symbolique de cette horde d'Amérique.
Payer le prix en quel sens? C'est-à-dire un désaveu international
mais,
ou même...
Bien sûr, aujourd'hui déjà, la Pologne a perdu beaucoup. La Pologne a occupé une place assez importante dans la politique européenne. Aujourd'hui, la Pologne est marginalisée. On le voit même aux États-Unis aujourd'hui.
J'en viendrai tout de suite à cette déclaration que vous venez de nous révéler de Jan Gross, mettant en relation la question juive en Pologne et la question des migrants. Mais un dernier mot sur Jedwabne, parce que, je le disais, le livre de Jan Gross a suscité une très forte discussion en Pologne, que un Abby Kohnt, journaliste de Gazeta, justement, raconte admirablement, dans un livre paru il y a quelques années en France, le crime et le silence. Et j'ai appris dans ce livre une chose qui m'a beaucoup ému. Elle parle d'un des grands dissidents polonais, hein, cette Europe centrale des années 80, Couronne, Jacek Couronne. Et il dit, Jacek Wound, à ce témoignage, Lvov, au début de la guerre, Lvov devenu Lviv, mais c'était encore une ville polonaise, ville sous occupation allemande. Sa famille vient de déménager, il ne connaît personne dans la classe, et l'institutrice dit que c'est bien qu'il n'y ait plus de juifs. Les enfants aussi étaient contents, tout le monde a ri, et couronne n'a pas osé réagir. C'était encore un enfant. Mais voici sa conclusion, admirable. Ce sentiment de culpabilité de ne pas avoir protesté à ce moment-là m'a poussé à résister toute ma vie. Donc il ancre dans cette expérience d'adolescent tout son engagement politique et qui l'a mené à la dissidence. Donc voilà, il y a là quelque chose de très important. On est effrayé à l'idée que la Pologne puisse justement stopper net aujourd'hui le travail de mémoire qu'elle a entamé depuis quelques années, de façon très spectaculaire. Quand on va en Pologne, on s'en rend compte, quand on discute avec les gens, etc. Mais j'en viens maintenant à cette déclaration très étonnante, en effet, liant la question des migrants à celle de la à la question juive pendant la guerre. Parce que je l'ai appris. En effet, les pays, ces États d'Europe centrale, sont très opposés à la politique d'Angela Merkel, d'accueil indiscriminé de tous les réfugiés venus de Syrie. C'est en cela qu'ils font demande à part, et c'est en cela qu'ils sont accusés de trahir, en versant dans la xénophobie, les valeurs européennes. Mais Orban, et je crois aussi d'autres dirigeants, ont eu cette expression, sur laquelle je vous invite à méditer, nous ne voulons pas que la Hongrie ou la Slovaquie ou la République tchèque deviennent la Marseille de l'Europe centrale. Alors, que penser de cette affirmation et est-ce qu'elle rencontre beaucoup d'échos dans les pays en question, Jacques Rupnik?
C'est une formule que j'ai entendue aussi parce que, bien entendu, l'arrivée des migrants est vécue en Europe centrale, non pas à travers l'expérience d'autres migrations dont l'Europe centrale était l'originaire. Parce que il faut quand même se souvenir que les pays d'Europe centrale sont des pays d'émigration. Et non pas d'immigration. Il y a eu donc une émigration hongroise après 56, une émigration tchécoslovaque après 68, une émigration polonaise aussi après 81. Donc, on ne voit pas l'arrivée de nouveaux migrants à travers cette expérience-là, mais on la voit plutôt à travers ce que sont devenues les sociétés d'Europe occidentale. Et pour aller vite, leur principale critique, c'est... Bon, il y a un argument souverainiste, on veut nous imposer des quotas de redistribution, c'est Bruxelles qui arbitrairement... Bon, il y a un argument souverainiste. Mais derrière, la principale critique, c'est... On cherche à nous imposer un modèle de société. Un modèle de société multiculturelle qui a échoué en Occident. Dans leur perception, c'est un modèle qui a échoué en Occident. La France, d'ailleurs, soit dit en passant, est souvent singularisée dans presque tous les débats que j'ai eus, et en République tchèque et ailleurs. Ça venait toujours sur la France qui est le symbole pour eux de cet échec. Je ne sais pas si d'autres pays finalement sont logés à la même enseigne. Et donc vous essayez de nous imposer un modèle de société qui a échoué. Pourquoi avez-vous ce modèle de société? Parce que vous avez eu des colonies et vous payez en quelque sorte vos péchés coloniaux, les péchés de votre passé colonial. Nous n'avons jamais colonisé qui que ce soit. Nous avons été colonisés. Nous avons été colonisés jusqu'en 89 par l'Empire soviétique. Donc on n'a pas de culpabilité vis-à-vis de ces pays d'Afrique. C'est pas nous qui avons bombardé la Libye ou que sais-je, dit le premier ministre slovaque. Nous n'avons pas bombardé la Libye. Pourquoi voulez-vous qu'on paye les conséquences de tout ça? Bref, il y a là un discours qui met en porte-à-faux complètement l'Europe centrale sur ces questions-là. Et on peut discuter donc de cette expérience, mais seulement si on a présent à l'esprit deux choses. D'une part, que ces pays d'Europe centrale ont été des pays multiculturelle, entre guillemets, à l'époque des empires. À l'époque de l'Empire autrichien, dans l'entre-deux-guerres, l'éloge de l'Europe centrale dont vous parliez de chez Milan Kundera, c'était une Europe centrale plurielle, ça veut pas dire toujours en harmonie, souvent en tension, mais en contact, et c'était ça la force et la créativité de l'Europe centrale, c'était l'interaction entre des peuples de différentes cultures, mais qui avaient un toit commun. Ça a été détruit. Par la Première Guerre mondiale et la fin de l'Empire. Et nous avons évolué en Europe centrale vers des États-nations homogènes. Homogénéisés par l'entreprise conjointe de Hitler et de Staline. Hitler a exterminé les Juifs, Staline a favorisé l'expulsion des Allemands. Les pays d'Europe centrale, comme la Pologne ou la République tchèque aujourd'hui, sont des États-nations homogènes. Ils sont devenus homogènes au moment où l'Europe occidentale devenait multiculturelle avec l'arrivée des migrants depuis les années 60. Donc nous avons deux, vraiment, l'autre Europe est autre de ce point de vue-là. Et elle est dans la composition, j'allais dire, ethnique de sa population. Elle est aussi dans le discours qu'elle porte sur la question des migrants.
Est-ce qu'on entend le même type de discours en Pologne, justement? Oui, nous ne voulons pas. L'Europe, et notamment la France, qui a longtemps fait envie, qui était une sorte de phare, semble aujourd'hui faire pitié et n'est plus tant un modèle qu'un repoussoir. Est-ce que c'est vrai aussi pour les Polonais?
Le repoussoir, c'est plutôt l'Allemagne qui est aujourd'hui repoussoir. Oui. Et la politique de Merkel, ce qui s'est passé dans plusieurs villes allemandes. Et donc, on parle beaucoup plus de l'Allemagne.
Et de la France, mais
d'ailleurs, le facteur allemand joue ici le rôle. Et Jacques Rupnik, il a tout à fait raison. Vous savez, je me souviens très bien quand j'étais étudiant, quand on a vu quelqu'un de différentes couleurs dans la rue, les gens regardaient parce qu'on n'a jamais vu ça. Oui. Or, il faut se rendre compte que ces pays étaient totalement différents des pays occidentaux. Ce n'est pas seulement le problème des 30 glorieuses et arriver en masse des émigrés travailleurs comme en Allemagne, en France et ailleurs. C'est même avant, c'est le passé colonial, le passé impérial. Même si on n'aimait pas beaucoup les gens des différentes couleurs, des différents, au moins, on les connaissait. Or, dans ces pays, on ne les connaissait pas. Donc, ils sont devenus l'autre, et l'autre menaçant. Et en plus, imposé par l'Allemagne, qui historiquement est un pays menaçant. Même si l'attitude des Polonais envers l'Allemagne aujourd'hui est beaucoup meilleure, et les Polonais aiment en général, il est très difficile de manipuler la paix. Et c'est ce que Kaczynski a fait. Pratiquement, ils ont gagné les élections. Avec la politique de Merkel. Kaczynski a gagné.
Le à dernier cause de la politique de Merkel.
Pendant un an, il s'est reculé de la place publique parce qu'il savait très bien qu'il est très impopulaire en Pologne.
Et alors, que s'est-il passé?
C'est ça qui s'est passé. La politique de Merkel est arrivée, le million de migrants est arrivé. Deux fois seulement, il est entré dans l'espace public et il a parlé de menaces. Qui nous guette, aussi biologique, les microbes, il utilisait le langage terrible. Deux fois, il a fait peur au pays, ce qui n'est pas difficile dans les pays qui sont neurotisés historiquement, qui ils ont peur. Il est très facile de veiller la peur. Donc, c'est l'autre qui n'est pas connu du tout, c'est pas comme l'Occident. Et vous savez très bien combien aujourd'hui la peur de l'autre serve à l'extrême droite et le mouvement populiste. Donc, il est d'autant plus facile d'autant plus facile à comprendre combien ça peut servir la mobilisation par les gens comme Orban, qui est très, très impopulaire et avec la migration, il a regagné l'influence.
C'est vrai pour Orban aussi bien que pour Kaczynski.
Bien sûr, Orban devenait de plus en plus impopulaire en Hongrie.
Et voilà, il est revenu grâce à la peur, si j'ose dire.
Oui, par rapport à l'Allemagne, c'est intéressant que ce qui s'est passé au cours de l'année dernière a permis le retour du groupe de Visegrad, de l'Europe centrale. Soudain, ils se retrouvent, ils étaient en désaccord sur beaucoup de choses. Soudain, ils sont au moins unis là-dessus. Nous ne voulons pas de quotas de migrants. Mais ce qui est intéressant par rapport à l'Allemagne, tous ces pays ont adopté au 19e siècle la conception allemande de la nation. Kulturnation, c'était des nations culturelles et linguistiques. Et donc, ils avaient ceci en héritage. Or, ils ont transposé cette idée-là de la nation culturelle à l'Europe. L'Europe comme culture et comme civilisation. Or, que voit-il en Allemagne ? Il voit l'Allemagne qui dit, mais non, l'Europe, c'est les valeurs universelles, c'est les droits de l'homme, etc. Donc il y a une inversion des rôles. Eux qui sont fidèles à la conception allemande, entre guillemets, de la nation et qu'ils prolongent au niveau européen, se trouvent en porte-à-faux par rapport à l'Allemagne qui déclare que l'Europe, c'est les droits de l'homme et l'universalisme. Donc là, il y a un véritable retournement ironique de l'histoire.
Retournement ironique de l'histoire. Et pour poursuivre dans ce sens, Jacques Rupnik, je rappellerai ce qu'a été le moment Kundera, puisque vous l'avez nommé ainsi. Donc cet article si important, la tragédie de l'Europe centrale, un Occident kidnappé, que le débat a publié en novembre 1983. Et dans cet article, Kundera dit « L'Europe que j'appelle centrale ressent le changement de son destin après 1945, non seulement comme une catastrophe politique, mais comme la mise en question de sa civilisation. Le sens profond de leur résistance, c'est la défense de leur identité, ou autrement dit, c'est la défense de leur occidentalité. » Or, il se trouve que ces mots d'occidentalité et d'identité sont, et ils l'étaient déjà, dans les années 80, donc on n'a pas fait, très attention à ce qu'écrivait Kundera, des gros mots pour l'Europe occidentale, puisque cette Europe occidentale, elle est avant tout post-hitlérienne, et le nazisme a voulu extirper du cœur de l'Europe l'idée d'humanité universelle, et l'a remplacée par la hiérarchie des races. Et cette catastrophe, selon les Européens d'Europe occidentale, appelle la venue d'une humanité que ne romprait aucune séparation intérieure. Et l'Europe se doit de donner l'exemple en choisissant la voie rédemptrice de l'indétermination. C'est-à-dire, en effet, et la formule en a été donnée par un sociologue allemand, Ulrich Beck, vacuité substantielle, ouverture radicale. Parce que si on est quelque chose de substantiel, on dit nous. Si on dit nous, on dit « eux », et si on dit « eux », on ouvre un engrenage infernal. Et en effet, à ce moment-là, l'Europe, c'est les droits de l'homme, l'Europe, c'est des valeurs. Or, il me semble que, pour les habitants d'Europe centrale, l'Europe, c'est encore et toujours une civilisation. Ce ne sont pas simplement des valeurs et des procédures. Et je crois que il y a là un conflit très important entre les deux Europes. Et évidemment, on a tendance à se rengorger dans la définition purement spirituelle que nous donnons de l'Europe aujourd'hui, étant donné le tournant ultranationaliste de l'Europe centrale. Mais peut-être y a-t-il quelque chose à entendre de son message quand même. Peut-être que cela veut dire quelque chose, en effet, la civilisation européenne, et c'est-à-dire des paysages, une façon d'être, un mode de présence sur Terre, et celui-ci mérite éventuellement d'être défendu. Il me semble que donc le dialogue, quand même, gagnerait à être renoué, pas nécessairement avec des leaders infréquentables, mais avec cette idée-là de l'Europe, dont l'Europe centrale, aujourd'hui, reste dépositaire. Jacques Rupnik.
Oui, justement, la difficulté, c'est de nouer un dialogue avec des gens comme Orban
ou Kaczynski,
etc., qui à la fois bafouent la démocratie à l'intérieur et portent sur l'extérieur un discours de protection de la civilisation. Donc, on fait tout ça. Donc, autoritarisme à l'intérieur et protection de la nation d'abord et de la civilisation au sens plus large. Et évidemment, quand on est dans cette mouture-là, il n'est pas aisé d'engager un dialogue, alors qu'on pourrait essayer de séparer les deux notions et voir ce qu'il y a effectivement dans l'héritage de la pensée d'Europe centrale. Vous avez mentionné Czesław Miłosz, Kundera, toute une série de grands écrivains d'Europe centrale qui ont réfléchi à cela. Et comme j'ai dit, dans les années 80, cela allait de pair avec une réhabilitation parallèle de l'idée de la démocratie, de la société civile, et le message de la dissidence était celui des libertés et de l'ouverture. Donc on n'était pas dans un discours sur la fermeture civilisationnelle. Or maintenant, en Occident, dès que vous dites civilisation, on vous prend pour un déterministe culturel, pour un raciste. Donc le dialogue est difficile. Et de l'autre côté, comme le dialogue est porté par des gens comme Orban ou Fico, qui dit « nous ne pouvons pas accueillir de réfugiés musulmans ici parce que nous n'avons pas de mosquée dans notre pays ». Donc évidemment, quand on arrive à ce niveau du débat, il est très difficile de l'engager. Je crois qu'il va falloir que la crise actuelle passe, que peut-être en Europe occidentale, on accepte un dialogue avec des leaders politiques d'Europe centrale, mais peut-être pas seulement avec eux. Moi, je crois plutôt à un dialogue entre intellectuels et avec la société civile. Le dialogue avec Orban, avec Kaczynski, avec Fico,
ça paraît difficile.
À mon avis, ça ne donnera pas grand-chose. Ou avec les Croates, avec le gouvernement croate.
À l'actuel gouvernement croate.
Le ministre de la Culture croate actuel.
Oui, Hasan Begovic, dont vous avez parlé.
Oui. Donc, avec des gens qui réhabilitent Ante Pavelic et le régime Moustachi, je vois pas comment le dialogue pourrait...
En revanche, il y a une protestation très forte dans la société civile croate,
mais voilà,
contre Hasan Begovic et des intellectuels, des
voilà,
artistes,
et moi, je dirais,
réclament aujourd'hui très fortement sa démission.
Voilà, et je pense que voilà, Alexandre Smolar a parlé de la force de la société civile en Pologne. C'est pas tout à fait le cas avec la même force ailleurs, mais elle existe. Et je crois que un dialogue transeuropéen entre intellectuels et dans la société civile, autour de ces thèmes-là, ça c'est la grande question d'aujourd'hui, ne pas laisser à Orban ou à Kaczynski le monopole du discours sur la civilisation européenne.
D'accord avec ça, Alexandre Smolar ?
Non, je suis d'accord. Je ne crois pas beaucoup sur les dialogues maintenant, l'Europe centrale et l'Europe occidentale, parce que je pense que d'abord, pour raison... Jacques Rupnik a dit qu'on ne peut pas parler vraiment à ce niveau avec Orban ou Kaczynski. Mais en même temps, même de l'autre côté, aujourd'hui, on peut dire que les élites se sont essoufflées, qu'il y a une certaine stérilité que je trouve. Je pense que c'est le problème de l'Occident. C'est d'ailleurs le problème des États-Unis aussi. C'est le problème de valeurs, des objectifs. C'est le problème axiologique aussi. Ça veut dire qu'il y a un sentiment avec les crises financières, avec toute cette crise de certaines vides. Donc, et je pense que l'Europe pourrait devenir attirant comme un projet seulement si le projet est repensé à ce niveau-là aussi. Et je pourrais attendre plus de côté de l'Europe occidentale, mais des États-Unis aussi, que de l'Europe centrale aujourd'hui, où la résistance est très forte. En même temps, je ne vois pas l'autre projet. Et on nomme, avec le symbole de l'Union européenne, on voit les manifestations avec le symbole purement polonais, mais aussi l'Union européenne contre les autres pour qui seulement la Pologne existe. Mais en même temps, il n'y a pas, je ne vois pas les idées neuves.
Vous n'avez pas d'idées neuves, mais vous dites que l'Europe doit redéfinir son projet. Mais elle est en même temps amenée à se repenser ou à se redéfinir elle-même comme civilisation avec ce qui lui arrive. L'Allemagne, fer de lance de cette nouvelle Europe des droits de l'homme, eh bien, a décidé d'accueillir et de faire bénéficier du droit d'asile tous les réfugiés venus de Syrie, comme si ces migrants pouvaient être réduits à leur dénuement ou à leur force de travail. Et elle a pris conscience, notamment après les événements de Cologne, que ce n'était pas vrai. Il s'est produit là quelque chose quand même comme un choc des cultures, puisqu'il s'est passé à Cologne la même chose que Place Tahrir pendant les manifestations qui ont débouché sur le renversement d'Hosni Moubarak. Des femmes ont été alors harcelées et agressées par des hommes qui voulaient simultanément les expulser de l'espace public et assouvir leur concupiscence. Donc là, quelque chose est arrivé que l'Europe ne voulait pas voir. C'est-à-dire, elle est une civilisation particulière qui peut être contestée par des gens d'une autre culture. Le multiculturalisme peut être conflictuel. L'Europe s'en rend compte. Et moi, pour penser tout cela, j'ai eu besoin d'un auteur polonais que j'ai cité tout à l'heure, Czesław Miłosz, qui dit ceci, mais extraordinaire justement, dans son livre « Une autre Europe », le chapitre consacré à la Russie. Et là, on en revient à Kundera. Le XXe siècle, pris de panique devant les sottises des nationalistes et des racistes, s'efforce de combler les abîmes du temps avec des statistiques de production et quelques noms de systèmes politico-économiques. Il renonce à étudier davantage la trame mystérieuse du devenir où aucun fil ne devrait être omis. Mais la trame mystérieuse du devenir, c'est aussi le monde dont nous venons, ce que nous sommes. Et peut-être que la définition qu'en donnent les dirigeants d'Europe centrale est schématique, caricaturale, forcée, mais l'Europe occidentale aurait intérêt, et semble-t-il est même obligée aujourd'hui, d'y réfléchir par la situation dans laquelle elle est plongée. D'où peut-être, en effet, la nécessité d'un nouveau dialogue intellectuel, sur le modèle de celui des années 80, entre les deux Europes, par-delà les dirigeants, Jacques Rupnik.
Ah oui, moi je pense que c'est ça, au moins un bon début. Je ne dis pas que c'est une solution miracle, parce que entre les deux positions, la crispation identitaire et la fermeture, qui est en gros le discours de d'un certain nombre de dirigeants d'Europe centrale, et l'ouverture universaliste tous azimuts de l'autre côté qu'on a vu chez Angela Merkel et qui a une tradition très noble, n'est-ce pas? On peut être admiratif et impressionné par le panache de cette tradition. Oui, on peut invoquer Kant et le citoyen mondial. Oui, on a Hannah Arendt et l'obligation d'accueil, le migrant qui est la figure emblématique du XXe siècle. Tout ça est vrai, mais peut-être alors dans le dialogue entre Européens du centre et de l'Ouest, on peut dépasser ces deux positions extrêmes et se dire, oui, l'obligation d'accueillir et d'intégrer, elle est là. Si quelqu'un est en train de se noyer, j'ai l'obligation de le sauver. J'ai aussi peut-être le droit, sinon l'obligation, de dire à ceux qui arrivent ce que nous sommes. Et alors, si nous devons leur dire ce que nous sommes, alors là, nous sommes, n'est-ce pas, l'accueil devient un exercice d'autodéfinition. Et nous devons dire que nous sommes des sociétés qui séparons la religion et la politique. Nous sommes des sociétés qui connaissons l'égalité de l'homme et de la femme. En gros, depuis Auschwitz, l'antisémitisme est quelque chose d'inacceptable en Europe. Et c'est... fait partie de l'identité européenne. Donc, on peut dire, l'accueil, il est nécessaire, mais il a une chance de réussir pour les migrants, comme pour l'Europe en tant que telle, si il y a cet exercice d'autodéfinition de ce que nous sommes. Et donc là, on n'est plus dans le discours sur la civilisation, on est dans une tentative de définir ce que, dans cette idée de la civilisation européenne, ce qui est vivant aujourd'hui.
Hein, et ce qui est non négociable.
Ce qui est non négociable, parce que l'échec Kolakowski avait écrit un grand article en 1956, « Ce qui est vivant est mort dans l'idée du socialisme ». Eh ben là, il faudrait « ce qui est vivant et ce qui est mort » dans l'idée de la civilisation européenne. Voilà, ça serait ça un peu l'objectif du dialogue transeuropéen.
Dans cet article, Kolakowski, il a énuméré 50 choses abominables, terribles. C'est pas socialisme. Et maintenant, je pourrais vous répondre, qu'est-ce que c'est le socialisme? C'est une bonne chose. C'est la seule réponse qu'il était capable de donner à l'époque. Donc, je pense que la crise pourrait être un point de départ aussi pour parler de l'Europe. Pas l'Europe de l'euro, pas le problème avec la Grèce ou Brexit, avec la Grande-Bretagne. Mais le problème, peut-être, c'est la dimension la plus profonde de la crise, c'est la crise d'identité européenne. Pour répondre à la question « Pourquoi nous sommes ensemble ? » Qu'est-ce que ça veut dire, l'Europe aujourd'hui ? Et ça devait être le point de départ. Et on pourrait se servir aussi bien des exemples négatifs de Orban et Kaczynski que de l'autre part de Cologne, ce qui s'est passé en Cologne, ou bien Marine Le Pen, les cas négatifs de ce qui se passe, les mouvements populistes à l'Occident. Pas parler seulement de problèmes de l'Europe centrale. On l'a fait au début, après 49, François Mitterrand a refusé même la perspective des réunifications européennes. Il a parlé des dizaines, des années. Ensuite, tout de suite, quand la crise a commencé de 2008, et crise financière, on a vu tout de suite les dangers venant de l'Est. Et les dangers n'est pas venu de l'Est. Et maintenant, c'est la troisième fois où on parle que le problème, c'est l'Europe centrale. Il y en a beaucoup de gens qui disent que c'était une faute grave de les accepter parmi nous, hein, l'Europe centrale. Je pense que si on se limite à poser la question de cette façon, on ne trouve pas la réponse. La réponse devait être européenne et il faut aborder la crise d'identité européenne.
Alors, il faut aborder la crise d'identité. On a besoin de penseurs pour le faire. On a cité ceux des années 80. Kolakowski, Miloš, Kundera, Havel. Est-ce que la relève est prête? Ce sera ma dernière question. Si on voulait organiser une grande conférence, si je voulais redonner vie à la revue dont je me suis occupé pendant 10 ans, Le Messager européen, y a-t-il des interlocuteurs aujourd'hui en Pologne, en République tchèque, en Slovaquie, en Hongrie? Jacques Rupnik.
Il y en a certainement. Ils ne sont pas aussi connus. Il faudra voir à la longue s'ils sont aussi brillants, aussi talentueux que leurs prédécesseurs. Mais je m'adresserai en priorité à la jeune génération. Je dirais qu'il y a la génération de Kundera, Havel, etc. Mais il y a maintenant une nouvelle génération. Et je vois que pour eux, la question du communisme et du passé communiste, c'est plus ça la question. Eux, ils sont confrontés à la question d'aujourd'hui. La crise de la démocratie dont nous avons parlé au début et la crise de l'Europe aujourd'hui. Ça, c'est leur question aujourd'hui parce qu'ils font partie de cette Europe-là. Donc, je dirais, il y a peut-être, si on devait chercher des interlocuteurs, il y a des jeunes écrivains, des philosophes. Je crois qu'il faudrait voir de ce côté-là, dans la jeune génération qui est venue après 89.
Et ils existent aussi en Pologne, Alexander Sola?
J'ai le même problème. Il faut s'adresser aux jeunes gens. Mais si vous me demandez à qui personnellement il faudrait s'adresser, c'est beaucoup plus difficile.
Donnez-moi des adresses et des numéros de téléphone.
Il y a 20 ou 30 ans. C'est aujourd'hui beaucoup plus difficile.
C'est beaucoup plus difficile aujourd'hui. Ouais, bien, mais écoutez, nous terminons sur cette note un peu triste. Mais en tout cas, merci beaucoup Jacques Rupnik, merci Alexander Smolar. Vous avez rempli votre ordre de mission, vous avez éclairé notre lanterne. Les références bibliographiques sont sur le site répliquefranceculture.fr où l'émission est disponible. La semaine prochaine, nous parlerons du chef-d'œuvre de Balzac, le colonel Chabert. Mes invités seront Jean-Paul Kaufmann et Pierre Pachet. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Édouard Rubinstein. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet, actualité de Roger Martin Dugard avec Hélène Batty-Delalande, une rediffusion du 13 décembre 2014.